Bonsoir et merci de suivre Radio Capi ce vendredi 13 décembre 2013. Deux sujets sont au centre de notre tribune de la presse de ce soir. Il s'agit de la fin hier jeudi à Nairobi au Kenya des pourparlers de Kampala. Dans deux déclarations signées séparément, le M23 s'engage à renoncer à la rébellion armée et à la dissolution de son mouvement. Et de son côté, le gouvernement congolais s'engage à mettre en place le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale des anciens rebelles et à présenter au Parlement congolais un projet de loi d'amnistie des éléments du M23. Comme deuxième sujet, nous parlerons du rapport de l'ONG Journalistes en danger, publié à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme. Selon ce rapport, année après année, la liberté de l'information se détériore en RDC au regard du nombre élevé d'atteintes diverses à la liberté d'informer et au droit à l'information. Trois confrères sont au centre de notre émission. Il s'agit de John Gomboa, il est directeur des informations à la télévision Antenne A, émettant depuis Kinshasa. Bonsoir John Gomboa.
Bonsoir Samuel Katiak.
Nous avons également Benoît Cambéré, rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs, qui paraît à Kinshasa et à l'est de la RDC. Bonsoir Benoît Cambéré.
Bonsoir Samuel Katiak, bonsoir tous les auditeurs de Radio Capi.
Nous sommes également avec Hippolyte Mbouilou, journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, antenne du Bas-Congo. Bonsoir Hippolyte Mbouilou.
Bonsoir chers confrères, bonsoir également à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Bienvenue à tous dans cette émission. La fin hier jeudi à Nairobi des pourparlers de Kampala et la publication du rapport de GED à l'occasion de la Journée mondiale des droits de l'homme figurent parmi les sujets ayant occupé les unes des journaux parus cette semaine à Kinshasa. Écoutons cette revue de presse que nous propose Kelly Nkute.
Bonsoir. À la une des journaux kinois ce matin, la signature à Nairobi au Kenya de la déclaration mettant fin aux pourparlers de Kampala. Le potentiel nous annonce que trois documents consacrent les certificats des décès du M23 aux pourparlers de Kampala clos à Nairobi. Fini les inquiétudes, le suspense et les rebondissements liés à l'aventure guerrière du M23, rapporte le journal. Le dernier épisode des pourparlers engagés à Kampala entre cette force négative et le gouvernement a été écrit hier jeudi à Nairobi. Signé séparément par le M23, Kinshasa et les deux organisations sous-régionales concernées, la CIRGL et la SADC, explique le tabloïd, ces trois documents ont consacré le certificat des décès du groupe armé soutenu la guerre par le duo Kigali-Kampala renchérit le potentiel. C'est ainsi que Forum des As lance Kampala, c'est fini. Selon le confrère, le M23 confirme sa renonciation à la lutte armée et met ses combattants à la disposition du gouvernement pour leur démobilisation et réinsertion sociale. Pour sa part, l'exécutif congolais prend acte de la déclaration des rebelles et promet de l'accorder l'amnistie à ceux qui ne seront pas coupables des crimes de guerre ou crimes contre l'humanité, conclut le quotidien. Le Phare explique que cette déclaration comprend au total 11 points acceptés par les deux parties. À travers la signature de cette déclaration, le M23 s'engage à mettre fin à la rébellion et à se transformer en parti politique. La déclaration prévoit également la création d'une commission chargée de statuer sur le sort des terres et des biens confisqués, volés ou détruits par les rebelles. Africa News pense que tout le monde gagne à la signature de cette déclaration. La paix s'en trouve renforcée, comme l'ont souhaité l'ONU et l'Union africaine, en initiant la rencontre qui a débouché à la signature de l'accord cadre d'Addis Abeba. Le gouvernement congolais aussi aura tenu bon jusqu'au bout et a fait triompher son point de vue. Changeons de chapitre pour parler du dernier rapport de l'ONG Journalistes en danger, en marge de la Journée mondiale des droits de l'homme. On peut lire sur le site de Radio Capi, au moins 119 cas d'atteintes diverses à la liberté de la presse ont été enregistrés en 2013 en République démocratique du Congo. L'ONG Journalistes en danger a publié ce chiffre lundi 9 décembre en marge de la 65e journée mondiale de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. Dans son rapport annuel 2013 sur l'état de la liberté de la presse en RDC intitulé RDC, la République de l'impunité, GED note qu'année après année, la situation de la liberté de l'information se détériore au regard du nombre toujours élevé de diverses atteintes à la liberté d'informer et au droit à l'information.
Merci Kelly. Écoutez, John Gombo, je rappelle que vous êtes directeur des informations à la télévision Antenna émettant depuis Kinshasa. L'actualité cette semaine a été aussi marquée par la cérémonie marquant les obsèques de Nelson Mandela, premier président de l'Afrique du Sud. Que vous inspire d'abord cet homme et cet événement, bien sûr?
Merci Samuel. Je voulais aussi profiter pour saluer les auditeurs de Radio Capi. J'ai pas pu le faire au début et j'ai saisi cette opportunité pour dire que les auditeurs de Radio Capi peuvent suivre aussi Antenne A désormais sur le bouquet satellitaire Canal 142.
Merci beaucoup.
Alors, j'ai fait un peu de pub pour ma télé. Mais ceci dit, pour être plus sérieux, je voulais dire ceci. J'étais vraiment émotionné. J'étais émotionné parce que à cette cérémonie, j'ai vu les grands du monde, hein, les grands du monde, un grand comme Barack Obama, qui dit que Mandela l'inspirait pour devenir encore plus grand. On se dit, mais Obama, il est après Dieu, c'est Obama. Mais si Mandela se trouvait au-dessus des Obama, que pouvait être cette personne? Donc, j'étais vraiment émotionné. Je l'avais dit la dernière fois, la perte de Mandela, moi, je l'ai vécu un peu dans ma chair, comme la perte d'un être proche. Et voir la masse de tous ces gens qui sont venus de partout à travers le monde pour quelqu'un qui n'était même plus au pouvoir. Et ça, c'était très, très fort pour moi. Et je l'ai vécu avec énormément d'émotion.
Merci John Gomboa. Benoît Cambéré, je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs qui paraît à Kinshasa et à l'est de la RDC. Mais présentement, vous êtes à Bukavu. L'actualité cette semaine a été aussi dominée par la célébration le 9 décembre dernier de la journée mondiale de la lutte contre la corruption. En RDC, un pacte national anticorruption a été signé entre les secteurs publics, privés et la société civile. L'objectif étant notamment de respecter les règles des bonnes gouvernances pour l'amélioration du climat des affaires. Un petit commentaire à ce sujet.
Avant de faire un petit commentaire sur la journée contre la corruption, je voudrais juste placer un mot sur les obsèques grandioses, n'est-ce pas, de l'icône du monde entier, finalement Nelson Mandela. C'est le nombre de personnalités qui étaient présentes, des têtes couronnées de la planète, qui étaient présentes à cette cérémonie grandiose. On a vu des investitures de chefs de l'État qui n'avaient comme invité que quelques foutus des gens ou quelques chefs de l'État, des fois qui ne se portaient même pas sur les doigts d'une seule main. Mais là, on a vu une centaine de chefs d'État et de gouvernement. Je me suis d'ailleurs posé la question de savoir si tous les chefs d'État et de gouvernement qui étaient présents aux obsèques de Nelson Mandela pouvaient imaginer comment eux seront enterrés et comment leurs obsèques auront lieu, parce que d'autant plus que en ce moment, les chefs d'État africains qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui généralement sont des dictateurs cynistes, généralement, c'est avec une balle dans la tête, parce que tellement ils ont fait du mal à leur pays, ils ont fait du mal à leur statut. Mais on a vu pour Nelson Mandela une centaine de têtes couronnées, on a vu une foule en lien, on a vu toutes les télévisions du monde. Ce jour-là, les gens étaient scotchés chez eux pour suivre ces grandioses obsèques de Nelson Mandela. Cela étant, pour revenir à la journée internationale, n'est-ce pas, de contre la corruption, eh bien, c'est une très bonne initiative, n'est-ce pas, des Nations Unies pour commémorer cette journée de lutte contre la corruption. D'autant plus que c'est des mots qui rongent beaucoup de pays africains, notamment le nôtre, la République démocratique du Congo, vivement que cette plaie, n'est-ce pas, ce cancer qui est la corruption, soit éradiqué. Et il faudrait une volonté politique et que nos dirigeants fassent en sorte que cette plaie soit vraiment, 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 vraiment guérie de notre pays pour le bien de la population congolaise.
Merci Benoît Cambéré. Je reviens à vous tout à l'heure. Hippolyte Mbouilou, je rappelle que vous êtes journaliste à la radio-télévision nationale congolaise, Antenne du Bas-Congo. Quelle est l'actualité à la une cette semaine dans la province du Bas-Congo où vous êtes?
Oui, à la une, il y a deux faits majeurs que nous pouvons retenir. Le premier, c'est sur le débat actuellement constaté à travers toute la province sur la réintégration ou non des députés provinciaux élus au Bas-Congo pendant la première législature, c'est-à-dire en 2006, dont le mandat a été invalidé puisque devenu membre du gouvernement provincial sortant. Ils sont au nombre de 5, il y a Deon Koussou, Potongumba, Bavoui Dibabingi, Mabé Kaneniku et Koukou Dimayeye. L'opinion publique continue à attendre l'arrêt de la cour d'appel sur ces dossiers. Le deuxième fait, c'est lié à l'adoption du projet de type budgétaire 2014 par l'Assemblée provinciale à l'unanimité de ce budget de la province du Bas-Congo qui se fixe autour de 300 milliards de francs congolais en recettes et tout comme en dépenses.
Merci beaucoup Hippolyte Mbouilou. Sans transition, nous passons à notre premier thème de ce soir. Fini les pourparlers de Kampala. Un communiqué final conjoint signé hier à Nairobi au Kenya met fin au dialogue de 12 mois entre le gouvernement congolais et les anciens rebelles du mouvement du M23. C'était en présence de l'équipe des envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs. Selon ce communiqué, parmi les 11 points du consensus trouvé entre les partis, Kinshasa s'engage à amnistier les membres du M23 uniquement pour des faits de guerre et d'insurrection, tandis que l'ancienne rébellion se dissout et se transforme en un parti politique légitime. Jeff Ngoy pour les détails.
Les deux déclarations du gouvernement congolais et du M23 couvrent notamment les dispositions transitoires de sécurité conduisant au désarmement et à la démobilisation des anciens combattants du M23, la libération de ses membres détenus par le gouvernement pour fait de guerre et d'insurrection, le retour des réfugiés et personnes déplacées internes dans leur foyer. Il ressort également de ces déclarations la création d'une commission chargée de la question des biens spoliés, extorqués, volés, pillés, détruits, terres comprises. D'autres points concernent la réconciliation nationale et justice, la mise en œuvre des conclusions de la réévaluation de la mise en œuvre de l'accord du 23 mars 2009. Les envoyés spéciaux encouragent donc les parties à mettre en œuvre rapidement les engagements auxquels elles viennent de souscrire, dont le désarmement, la démobilisation et la réintégration des membres du M23 en RDC, au Rwanda et en Ouganda, selon le cas.
John Gomboa, comment est-ce que vous analysez ces déclarations de Nairobi mettant fin au pourparlers de Kampala?
Bon, je pense que ça tombait sous les sens. Ça ne devrait que se dérouler comme cela. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre choix. Vu le déroulement de la situation militaire sur terrain. Ceci dit, je tiens quand même à tirer un chapeau bas au gouvernement congolais. Il nous a pas habitué à autant de fermeté sur des questions de souveraineté, hein, ma foi. Il faut l'avouer que le gouvernement a tenu mordicus jusqu'à la fin. Et ça, ça doit être porté, je crois, à son actif. Maintenant, il reste deux choses importantes à faire. Consolider la paix et préparer la guerre. En voulant la paix, bien entendu. Consolider la paix, parce qu'il faudra maintenant plus de cohésion, plus de démocratie, plus de redistribution des richesses, et la réhabilitation.
Mais consolider la paix et préparer la guerre, qu'est-ce que vous voulez dire par là?
Oui, préparer la guerre, c'est que il ne faut pas, comme on dit dans l'adage, qui veut la paix prépare la guerre. Dans notre pays ici, nous subissons trop parce que on n'a pas l'armée qu'il faut. Nous sommes toujours pris à contre-pied. Maintenant, il faudrait que nous tirions toutes les leçons de cette période ici pour que nous puissions préparer notre armée, qu'elle soit une armée de dissuasion déjà, au lieu qu'elle soit une armée seulement des replis et des défenses, mais qu'elle soit une armée de dissuasion quand on regarde la
elle vient de faire ses preuves.
Oui, mais là c'est dans un contexte assez particulier. Il faut saluer aussi le soutien de la force d'intervention
des
Nations Unies qui a quand même contribué tant que faire c'est peu à cela. Mais disons que l'armée aujourd'hui, c'est pas seulement les bataillons qui sont à l'est. Il faut restructurer l'armée de manière générale sur l'ensemble du pays. Et ça, ça doit être dans les objectifs urgents immédiats. S'occuper de la solde du militaire, équiper l'armée en moyens, en armes efficaces. Et puis, je l'avais dit avant, il faudra aussi, Samuel Kachak, plus de démocratie, permettre. Parce que finalement, on en arrive parfois à la guerre parce que les gens n'ont pas la possibilité de s'exprimer de manière pacifique. Laissez les gens s'exprimer. Ça va éviter qu'ils puissent recourir à des moyens illégaux pour pouvoir s'exprimer. Il faudra plus de redistribution des richesses. Parce que c'est finalement ça. L'État, c'est notre mère à nous tous. Il doit nous nourrir de la même manière. Et il faut plus de cohésion nationale. Chapeau au chef de l'État qui a lancé l'idée. Maintenant, il ne faut pas que ça reste seulement au niveau du calcul politicien. Il faut que la cohésion nationale se reflète réellement dans la pratique au quotidien. Et enfin, je vais terminer par la réhabilitation des infrastructures, parce que Rutshuru a peut-être vécu dans l'âme, dans sa chair, toutes ces destructions. Maintenant, il faut reconstruire Rutshuru, reconstruire le Nord Kivu et reconstruire tout le Congo du reste qui en a besoin, qui est un pays en guerre depuis plusieurs années.
Je reviens à vous, John Ngomboa. Beno Kambere, le M23 s'engage à renoncer à la rébellion armée et à la dissolution de son mouvement. Mais quelles sont les garanties que cette déclaration nous offre et est-ce que celle-ci peut constituer un gage pour la stabilité et la sécurité à l'est du pays?
Bon, écoutez, moi je pense hein, que c'est vrai, il s'engage à... c'est un peu... Et là, je voudrais plutôt revenir sur le contenu de cet accord et revenir sur, finalement, la polémique stérile. Hein, qui, parce que moi, j'attendais le contenu du rapport pour pouvoir réagir, la contenu stérile sur l'intitulé du rapport. Accord, déclaration, communiqué final, mais à entendre ce qui a été dit, n'est-ce pas, à entendre ce qui a été écrit, c'est textuellement l'accord du 23 mars copié-collé où on a remplacé le CNDP par le M23. Le CNDP s'était engagé à devenir un parti politique, il est devenu un parti politique. Aujourd'hui, le M23 deviendra un parti politique. Maintenant, tout le problème, il est où? Le problème, il est se situe dans l'application de ces accords. Vous savez que dans la région ici, on a déjà signé plus de 11 accords dans ce sens, et le point commun de tous ces accords, c'était que ces accords ne sont pas respectés. Et d'ailleurs, si la guerre du M23 nous est arrivée, c'est tout simplement parce que les accords du 23 mars à l'hôtel nous signaient pas, n'étaient pas respectés comme il fallait. Comme maintenant, ce qui est important, c'est que tout le monde respecte ces accords, sinon on n'est pas à l'abri d'une nouvelle guerre. Toutes les autres guerres qu'on a eues dans la... C'était tout simplement parce que les accords n'étaient pas respectés. Et il semble que nous sommes champions du non-respect des accords qu'on signe. On signe un papier, c'est comme si c'était un chiffon qu'on a mis à la toilette. On ne respecte pas sa signature et ça, ce n'est pas sérieux. Si le M23 aujourd'hui est devenu à décider de cesser d'exister, ça c'est un non-sens tout simplement parce que le M23 n'existe plus avec... La débandade qui a eu lieu au front avec la force internationale, la brigade internationale qui les a délogés avec les FARDC, n'est-ce pas, de leur base à Nyiragongo et dans le Rutshuru. Il n'existe plus. Maintenant, il va se transformer en parti politique. Et on va voir dans quel camp il va aller. Je ne sais pas s'il sera dans l'opposition ou dans la majorité, la mouvance présidentielle, parce qu'on avait vu le CNDP, ce qu'il était devenu parti politique, c'est à la mouvance présidentielle qu'il était allé. Maintenant, on verra de quel côté ils vont pencher. Le problème qui va se poser, c'est le problème de respect de ces communiqués conjoints ou de ces accords qui ne disent pas leur mot. Finalement, c'est le même contenu qui a été préparé quand on a déjà, on avait déjà fait l'évaluation de l'accord du 23 mars. Le problème, ce sera le respect de ces accords et peut-être que la région pourra retrouver un calme.
Merci Benoît Kambere. Hippolyte Omboulou, le fait que le M23 a signé cette déclaration de Nairobi mettant fin à sa rébellion n'exclut pas la résolution des questions de fond. Il s'agit entre autres de la question des FDLR. Comment peut-on alors faire pour régler cette question, selon vous?
Oui, je pense que les concertations, aux concertations nationales, les concertateurs sont revenus sur toutes les causes liées à des guerres que la République démocratique du Congo a connues depuis un certain temps. La question de FDLR a été également évoquée. Il est vrai, comme vous l'avez dit, la question de FDLR n'est pas résolue par la déclaration signée par les deux parties. Mais moi, je pense que le gouvernement, ensemble avec le Rwanda et l'Ouganda, doivent continuer à réfléchir, voir dans quelle mesure démobiliser pratiquement les FDLR et également les retourner chez eux au Rwanda pour qu'ils puissent réellement travailler par rapport au développement de leur pays. Mais pour revenir un peu à la déclaration signée par le gouvernement et le M23, cette déclaration, Benoît Kambere l'a démontré, nécessite le respect de ces accords. C'est vrai, signer, c'est une bonne chose, mais nous attendons des deux parties le respect des accords pris d'ailleurs librement. Le fait que les deux parties aient signé séparément, le problème ne se pose pas, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le respect de ces accords. Mais également, ces accords laissent un certain nombre de questions qu'on se pose. Qui va financer les opérations de démobilisation, de désarmement et de réinsertion sociale des anciens rebelles? Est-ce que c'est le gouvernement central de la République démocratique du Congo ou c'est par la communauté internationale? Avec quel échéantier? Faut qu'on arrive à répondre à toutes ces questions. Également, quelle est l'implication du Rwanda et de l'Ouganda dans la pacification de la région? Moi, je pense qu'il faut qu'on étudie toutes les marges de manœuvre pour faire en sorte que tous ces pays ne puissent plus revenir à leur comportement belliciste qui consiste chaque fois à chercher à balkaniser la République démocratique du Congo, comme mes deux prédécesseurs l'ont démontré tout à l'heure. Tout doit être fait pour consolider la paix chèrement acquise, également motiver nos services de sécurité ainsi que les forces armées de la République démocratique du Congo pour qu'ils puissent disposer des moyens logistiques et financiers nécessaires pour faire face à une guerre éventuelle. Ça va nous permettre cette fois-ci pour revenir au mot consolider la paix à long terme.
Merci Polyte Mbouiloudjian-Gomboa. Que doit alors faire le gouvernement congolais pour qu'un autre mouvement rebelle ne puisse naître et descendre du M23, puisque dans le passé on avait le RCD qui a donné naissance au CNDP, le 15-NDP ensuite a donné naissance au M23.
Oui, il y a des actions à mener en interne au pays et sur le plan régional. Sur le plan régional, la RDC doit mener une diplomatie proactive auprès aussi bien des organisations régionales que des pays d'où proviennent généralement ces mouvements qui les soutiennent. On le sait, aujourd'hui c'est un secret des polichinelles de dire que le Rwanda a joué un rôle très important dans la genèse ou dans la gestation de tous ces mouvements-là. À côté du Rwanda, vous avez l'Ouganda qui cherche plutôt un rôle d'hégémonie dans la région. C'est très important que désormais Kinshasa soit en bonne intelligence avec Kigali et Kampala. De un, de deux, il faudra maintenant en interne régler les problèmes des conflits intertribaux, parce que ça part aussi de là, des conflits intertribaux. Vous avez beaucoup de maï-maï qui pilulent aujourd'hui dans la région, des conflits intertribaux. Régler rapidement tous les conflits intertribaux, régler les conflits des terres, parce que ils sont aussi à la base du soulèvement des gens. Régler les conflits des terres, bien entendu, je l'avais dit aussi avant, il faudrait que l'ouverture démocratique soit encore plus grande, afin d'anticiper sur la tendance que l'être humain a à recourir à la violence pour régler un problème qui peut être résolu rien qu'avec la parole. C'est-à-dire permettre aux autres de s'exprimer, les écouter, intégrer leurs revendications dans votre fonctionnement. Comme ça, on évite la marginalisation dans la gestion des choses publiques. Parce que c'est vrai que ces mouvements, ils sont aussi des sens extérieurs, mais leur base locale, c'est une marginalisation dans la gestion de la chose publique où ils ne se sentent pas concernés. Donc je pense que si le gouvernement fait cela, il est possible que nous connaissions une période de paix aussi longue que la période de la guerre que nous venons de connaître dans ces pays.
Benoît Kambéré, le gouvernement congolais s'engage à mettre en place le programme de démobilisation, désarmement et réinsertion sociale des anciens éléments du M23. Mais on se demande, est-ce que ces éléments du M23 ne pourraient pas être une source d'insécurité une fois réinsérés socialement? Est-ce que la solution la meilleure n'aurait pas été de les réintégrer dans l'armée et les réaffecter dans d'autres régions militaires?
Effectivement, le problème va se poser à ce niveau. Quand nous savons qu'il y a eu également des mouvements de remettre les forces armées rebelles dans les forces armées congolaises, il y a eu des mouvements Maï-Maï qui n'ont pas été intégrés faute de moyens et faute de volonté politique. On a privilégié le M23 et ces mêmes mouvements armés ont repris les armes. Il y a une chose de s'engager à faire quelque chose. Une autre chose, il faudrait que les gens fassent en sorte que tout ce qu'on s'engage soit respecté. On voit comment les Maï-Maï qui pilulent à travers la région ont souffert de ne pas être intégrés. On a vu des chefs Maï-Maï qui sont arrivés à Kinshasa. On a promis des gardes, des grades, et on leur a rien donné. Les résultats. Ils sont rentrés dans la forêt pour reprendre les armes et continuer à fracasser la population. C'est un grand défi. Je ne dirais pas, heureusement, que le budget n'a pas été adopté à cette question dite budgétaire, n'est-ce pas? Il faudrait que les moyens soient mis et que la volonté politique soit là pour qu'on réintègre tout ce groupe. Parce qu'il n'y a pas que le M23, comme on avait déploré à l'époque, qu'on avait privilégié uniquement le CNDP. Il ne faudrait pas qu'on retombe sur la même erreur. On voudrait seulement résoudre le problème du M23 et on laisse les autres problèmes en charge. Comme ça n'a pas marché avec les autres groupes armés qui ont commencé à prendre les armes, qui ont commencé à recommencer à fracasser la population, il faudrait que le gouvernement, cette fois-là, dans la bonne gouvernance, fasse un effort pour respecter ce pourquoi il s'est engagé. Et le problème des groupes armés est un problème assez important, n'est-ce pas, pour qu'on le laisse comme ça. Il ne faudrait pas que, et John Lombo l'a dit, et notre ami Hippolyte l'a dit, il faudrait qu'on consolide notre armée, que notre armée ne soit pas seulement une armée qui s'occupe de la partie Est, il faudrait que l'armée soit consolidée, soit équipée, soit motivée à travers toute la République démocratique du Congo. S'il y a des éléments valables dans les groupes armés, qu'on les réintègre dans l'armée, et que la discipline, parce qu'on dit, n'est-ce pas, que la discipline est la mère des armées, je sais de quoi je parle, je suis moi-même fils de militaire, dans chaque camp, on a l'inscription qui dit la discipline est la mère des armées. Tous ces gens, s'ils sont disciplinés, qui rentrent dans l'armée, et qu'on donne les moyens de ça, ça ne se passera pas comme on l'a toujours dit, mais cette fois-là, ce sera une bonne fois possible. On aura réglé le problème de notre armée. Et je crois que les populations et de l'Est et les populations de la République démocratique du Congo en général vont souffrir et on peut au moins penser au développement.
Merci Benoît Kambéré. Je rappelle que vous intervenez depuis Bukavu, au Sud-Kivu. Hippolyte Omouilou, ces déclarations de Nairobi règlent les questions militaires et l'avenir des éléments armés du M23. Mais ces déclarations ne font pas mention clairement des tenants du M23, c'est-à-dire leur cadre politique. On se demande alors que deviendront ces personnes et que peut-on faire pour mettre à profit leurs capacités intellectuelles au service de la nation.
En principe, on doit penser à ça, mais il y a une grande difficulté. Vous rappelez de certaines déclarations faites avant par le gouvernement qui ne voulait pas qu'on reprenne certains cadres qui sont accusés des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a certains d'entre eux, d'ailleurs, qui sont recherchés par la Cour pénale internationale. Mais en début de ces problèmes, puisqu'ils sont encore présumés innocents, même au niveau de la TPI, nous pensons qu'en l'état des troupes, il faut qu'on pense à réfléchir de quelle manière le réintégrer. Est-ce qu'on peut le réintégrer dans l'armée ou encore le réintégrer dans dans la vie civile, puisque la société a besoin d'eux, puisque nous pensons qu'on peut carrément utiliser leurs capacités intellectuelles telles que vous l'avez signifié pour le bien du pays. Il faut qu'on retienne une chose, qu'aucune guerre ne peut prendre fin sans aboutir à des accords. Rappelons-nous de la Deuxième Guerre mondiale ou la Première Guerre mondiale où l'Allemagne, bien que défaite, était obligée de signer des accords avec les Alliés en dépit du fait que les Allemands ont commis des crimes contre l'humanité. Au niveau national, il faudrait qu'il y ait recul par rapport à tous ces dossiers pour qu'on sache qui a fait quoi, qui peut apporter quoi au niveau de la nation pour voir dans quelle mesure, petit à petit, les réintégrer. Puisqu'il y en a qui ont aussi combattu contre le gouvernement à un certain moment, qui ont été réintégrés. Pourquoi on ne peut pas arriver à réintégrer les cadres du 1-23 aujourd'hui?
Merci, Polyte Mbouilou. Nous passons directement à notre second sujet de notre émission. Le 10 décembre dernier, le monde entier a célébré la 65e journée mondiale de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À ce sujet, l'ONG journaliste en danger GED a publié son rapport annuel 2013 sur l'état de la liberté de la presse en RDC intitulé « RD Congo, la République de l'impunité ». Dans ce rapport, GED note qu'année après année, la situation de la liberté de l'information se détériore en RDC au regard du nombre toujours élevé d'atteintes diverses à la liberté d'informer et au droit à l'information. Kivuadi, l'un des responsables du GED, joint par Martin Sebujangwe.
Nous avons enregistré plus d'une centaine d'atteintes diverses à la liberté de la presse et autres attaques qui ont été dirigées contre les médias. 119 cas en 2013 contre 127 en 2012. Sur le plan des statistiques, évidemment, il y a une amélioration, je pourrais dire, quantitative, mais qui ne signifie en rien que le climat général du travail de la liberté de la presse a été amélioré dans la mesure où, cette année encore, il n'y a pas eu de mesures ni politique, sur le plan politique, ni sur le plan légal, qui pourrait faire en sorte que le climat général de la liberté de la presse être amélioré. Mais nous avons surtout, cette année, voulu mettre un accent sur la question de l'impunité, n'est-ce pas, des attaques et des violations contre la liberté de la presse, et appeler le gouvernement à lutter sérieusement contre cette culture de l'impunité qui entretient justement l'insécurité pour les journalistes.
John Gomboa, quelle analyse vous faites de la publication de ce nouveau rapport de GED?
Je pense que ce rapport tombe à propos en République démocratique du Congo, vu le rôle que les médias doivent jouer de manière traditionnelle, mais de manière aussi particulière dans ces pays. Parce que, figurez-vous, les médias, on attend énormément des journalistes dans ces pays. On attend même qu'ils jouent le rôle des gestionnaires de la chose publique. On leur reproche énormément de choses, mais en même temps, les cadres de travail n'est pas bon et les cadres de travail est entre autres déstabilisé. Il y a aussi les faits économiques, peut-être que tu vises ta part élevée, mais les cadres de travail du journaliste est essentiellement déstabilisé par la coercition du pouvoir public. Et il est grand temps que cela puisse s'arrêter et je soutiens totalement la position de GED.
Oui, Benoît Kambere, c'est bien que GED dénonce. On a même l'impression que les journalistes tirent la couverture de leur côté. Mais on peut se demander aussi, est-ce que les journalistes font vraiment leur travail comme il se doit dans le respect des normes et de l'éthique déontologique?
Très bonne question, Samuel Kachak. Mais je voudrais d'abord saluer mes amis de GED, n'est-ce pas, à l'occasion de leur 15e anniversaire. Et là, je voudrais avoir une pensée plus à un ami qui a commencé ce travail de GED depuis 15 ans, GED qui travaille pour les journalistes. Je pense à Mwamba Wabamulamba et c'est à notre ami Donam Baya qui est en dehors du pays. Et je voudrais présenter mes félicitations à Kivis Kivuadi, un ami qui travaille vraiment pour défendre les journalistes. Aussi, je suis d'accord avec ce qui défend les journalistes, mais aussi, je me dis que nous avons aussi parmi nous, je n'ai malheureusement pas tout ce mot à dire, des journalistes dangereux, des journalistes qui ne respectent pas la déontologie, des journalistes qui n'ont ni foi ni loi, des
journalistes ou qui travaillent pour les politiques.
Les moutons noirs.
Tout ça, je me dis que c'est une chose que nous devons combattre parce qu'il faut séparer le bon vin de l'ivraie, parce que les bananes pourries, les tomates pourries, dans un panier, les tomates nouvelles et bonnes finissent par pourrir les autres tomates. Dans la profession, il y a certes des gens qui font très bien leur travail, mais il y a également des journalistes que j'appelle dangereux, qui ne sont pas formés, qui ne connaissent pas la déontologie, qui sont des mercenaires et qui ne font pas leur boulot. Et ça, je vais demander à nos amis de GES, journalistes en danger, de ne pas s'occuper de ces journalistes dangereux. J'ai applaudi les pages de eux-mêmes quand j'ai suivi à la télévision mon ami Sylvie Pivoisi déchiré peu de tout, qui s'entraînait comme ça gratuitement aux gens. Et donc, ce GES, que nous devons faire tout, faire en sorte que cette gangrène qui cette noble profession des journalistes. Et sans cela, nous n'irons pas de l'avant. Il faudrait également que les pouvoirs publics respectent les journalistes et facilitent la tâche des journalistes. Je me rappelle de l'argent qui était promis aux journalistes qui n'a jamais été libéré, qui était même budgétisé, semble-t-il. On ne parlera pas du budget aujourd'hui, mais c'était particulier. On ne sait pas où est parti cet argent. Il faudrait que le pouvoir public aide la presse qui fait un travail de service public pour que la démocratie ne se porte que mieux.
Hippolyte Mouilou, Benoît Cambert a dit il faut séparer les bons grains de l'ivraie. Mais un autre problème qui restreint aussi la liberté de la presse, c'est celui de l'accès aux sources d'information. Comment peut-on faire pour rendre facile l'accès aux sources d'information aux journalistes?
Oui, c'est une question très intéressante. Comment accéder aux sources d'information? C'est un problème majeur. Nous vivons dans un pays où pratiquement beaucoup d'autorités en particulier n'aiment pas trop se livrer à la presse, je ne sais pas trop pourquoi, et elles ont tendance à vous laisser parler, faire parler l'autre camp. Lorsque vous allez en parler et vous démontrer que son camp n'a pas pu vous fournir les éléments qu'il faut, malheureusement, ils ont plus tendance à agresser les journalistes, c'est bien malheureux. Je pense que par là, on revient un peu au débat sur le travail du journaliste lui-même. Est-ce que le journaliste lui-même est vraiment à la recherche des éléments dans les différentes sources? Essayez de suivre les informations sur beaucoup d'organes de presse où vous sentez que soit il y a ces soucis de rechercher l'information de manière objective. C'est le cas un peu de la Radio Capi, que je tiens à féliciter, chers confrères.
Mais
malheureusement, dans la plupart de nos organes de presse, nous avons tendance à nous arrêter sur une seule source. On est traite un peu l'information de manière partielle. Ce qui fait mal à l'autre partie qui cherche également à s'exprimer. Mais revenant un peu à ces rapports de jeunes, ça doit nous faire prendre conscience aux autorités publiques qu'il y a un certain nombre de choses qu'il faut changer de ces côtés-là, parce qu'on ne peut pas continuer à tolérer la direction de journalistes, on ne peut pas continuer à tolérer des cas de pression diverses qui ont été notées sur les journalistes et des médias. Je vous donne juste un cas, ici même à Matadi, nous avons des journalistes de la RTNC également, d'autres organes de presse, parce que couvrant certaines activités de lutte contre la profanation du cimetière de Matadi, par exemple le 1er août 2013, certains des journalistes ont été agressés par les frères, neveux ou encore amis de certaines autorités de la place. Ça fait très mal, mais toutes ces personnes, jusqu'à ces jours, n'ont jamais été sanctionnées. Donc c'est vraiment un problème majeur. Il faut qu'on mette fin à l'impunité de ce côté-là.
Merci, Polyte Mbouilou. John Gombo, on se rapproche déjà de la fin de notre émission. Je vais vous demander des réponses brèves. Selon vous, comment peut-on faire pour mieux garantir aux journalistes la liberté de l'information et prévenir ainsi le nombre toujours élevé d'atteintes à la liberté d'informer et au droit à l'information?
Je crois que tout est là. L'arsenal juridique et judiciaire est là. Il faut tout simplement l'appliquer. Je voudrais rebondir ici pour évoquer la loi sur l'accès à l'information que GED est en train de promouvoir, qui devrait aussi être votée, acceptée, parce que en situation de gestion de la chose publique, n'importe quel individu doit se soumettre à pouvoir faire les comptes rendus de la manière dont il gère. Vous êtes directeur général d'une entreprise publique, vous êtes ministre, ce n'est pas votre bien que vous gérez. Et donc, il y a, j'ai parlé de l'arsenal, le fonctionnement de la presse est réglementé. Si on commençait tout simplement par faire respecter ce qui est dit dans les différentes lois qui réglementent notre métier, je crois que nous serons quand même suffisamment sortis de cet imbroglio et peut-être qu'à partir de ces moments-là, nous pourrions avoir d'autres problèmes. Moi, je disais qu'il y a des problèmes peut-être économiques. Les organes de presse doivent aussi être des entreprises réelles et là, ça sera peut-être un autre niveau auquel on devrait accéder en ayant déjà réglé les niveaux du cadre de fonctionnement législatif.
Benoît Cambéré, je vais aussi vous poser la même question, mais tout en vous demandant des réponses brèves. Selon vous, comment faire pour mieux garantir aux journalistes la liberté de l'information et prévenir ainsi le nombre toujours élevé d'atteintes à la liberté d'informer et au droit à l'information?
Il faut une volonté politique et il faut de la bonne gouvernance. Tout simplement, quand on gère comme il se doit, quand on fait une bonne politique, quand on fait son travail comme il se doit, toutes les vaches seront bien gardées. Il n'y aura pas ce genre de dérapage. Il n'y a que les gens qui font mal leur travail qui ont des choses à cacher. Quelqu'un qui fait bien son travail ne devrait pas avoir des choses à cacher, tout simplement. La bonne gouvernance est le grand problème.
Hippolyte Mbouilou, toujours la même question. Comment faire pour mieux garantir aux journalistes la liberté à l'information et prévenir ainsi le nombre élevé d'atteintes à la liberté d'informer et au droit à l'information?
Je pense que il y a nécessité de continuer à cultiver la culture de la tolérance dans notre pays et le sens de la démocratie pour que chacun comprenne le rôle important joué par la presse pour la démocratisation du pays. Également, il faudrait qu'on prenne des mesures importantes sur le plan administratif, politique, légal, judiciaire, également professionnel, pour protéger davantage les journalistes, tendant pratiquement vers la dépénalisation du délit de la presse. Et enfin, ce que nous pouvons également demander aux organes de presse, d'être rigoureux dans le recrutement des journalistes, parce que chaque jour, on a comme impression que certains journalistes viennent là comme des parachutistes qui agissent sans tenir compte de l'éthique et la déontologie journalistique.
Oui, Polyte Mbouilou, je rappelle que vous êtes journaliste de la Radio-Télévision Nationale Congolaise, antenne du Bas-Congo. Benoît Cambéré, un petit mot en guise de conclusion.
Ben, écoutez, Proficiat, continuez sur cette lancée. Félicitations à vous et bon vent pour le reste du combat qu'il doit faire pour les journalistes et qu'il combatte les journalistes dangereux. Nous en avons besoin.
Je rappelle que vous êtes rédacteur en chef du magazine Les Échos de la région des Grands Lacs qui paraît à Kinshasa et à l'Est. Pour l'instant, vous intervenez en direct de Bukavu au Sud-Kivu. Nous terminons avec vous, John Gomboa. Vous êtes directeur des informations à la télévision antenne à émettant depuis Kinshasa. Un petit mot en guise de conclusion.
Oui, d'abord, c'est que nous profitons de la conclusion de Kampala pour pouvoir construire la paix. Et ensuite, à propos de Antenne A, les auditeurs de Radio Okapi peuvent désormais suivre Antenne A sur le bouquet Canal SAT au Canal 142 et on se fera le plaisir de servir tout le monde à travers la République et l'Afrique.
Merci beaucoup, John Gomboa. C'est avec vous que nous terminons cette émission. Je rappelle que Kelly Kout était à la réalisation de l'émission. Dieudonné Nyangas à la partie technique. Samuel Kachak vous l'a présenté sous la supervision de Martin Sebouchangoué. La rediffusion de l'émission, c'est demain matin à 4h15 heure de Kinshasa. Merci et bon week-end sur Radio Okapi.